VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Tchad, deux attentats suicides ce matin à N'Djamena, selon la police. On signale de nombreux morts et blessés, mais pas de bilan précis jusqu'à présent. Les attaques ont visé le commissariat central et l'école de police et le gouvernement tchadien tient une réunion de crise sur ces explosions que personne n'a revendiquées. Mais le Tchad est en première ligne dans la guerre contre les islamistes nigériens de Boko Haram, déclare l'AFP. La France condamne ces attaques et assure le Tchad de son soutien dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le porte-parole du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Sommet de l'Union africaine à Johannesburg, le président soudanais Omar al-Bashir a quitté l'Afrique du Sud et est sur le chemin du retour au Soudan. C'est ce que confirme Khartoum. Des témoins oculaires ont vu son avion décoller de Johannesburg aujourd'hui, bien qu'il n'y ait eu aucun communiqué spécifiant que le chef de l'État soudanais était à bord. Omar al-Bashir est recherché pour crime de guerre et génocide au Darfour par la Cour pénale internationale de La Haye. Et la CPI avait demandé à l'Afrique du Sud de l'arrêter à l'occasion de sa présence à Johannesburg pour le 25e sommet de l'Union africaine qui se termine aujourd'hui. Un juge sud-africain avait demandé à Pretoria d'empêcher M. al-Bashir de quitter le pays en attendant la décision du tribunal concernant la requête de la CPI. Mais Khartoum n'a jamais semblé inquiet au sujet de la capacité du président Bashir de rentrer chez lui. Le ministre soudanais de l'information, Ahmed Bilal Ousmane, avait affirmé aujourd'hui que M. Bashir avait obtenu des assurances de son homologue sud-africain Jacob Zuma à ce sujet. À noter que les États-Unis avaient exprimé leur soutien aux efforts pour arrêter le président soudanais al-Bashir et répondre positivement à la demande de la CPI. Accalmie relative au Burundi, mais le problème des réfugiés burundais en territoire rwandais reste entier. Le reportage de notre envoyé spécial Bagassi Koura au camp de Mahama dans l'est du Rwanda.
Leur nombre ne fait que grossir jour après jour. En fin de semaine dernière, les autorités rwandaises parlaient de 26 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants qui sont arrivés ici depuis fin avril. Ruth Niyongere, une mère de famille, explique que la situation dans son village était devenue trop insupportable.
Nous avons fui à cause des Imbonerakure. Ils nous ont torturés, intimidés et le gouvernement leur a fourni des armes et des grenades.
Terence Zorabonayo s'est dit président des réfugiés de Mahama. Il explique que les gens qui débarquent ici ont tous des histoires similaires.
Ils vivaient la situation d'intimidation, d'agression et de menace par les jeunes Imbonerakure, les milices de parti au pouvoir, le CNDD-FDD.
Les premiers réfugiés sont arrivés ici le 23 avril et chaque jour, ou presque, des centaines d'autres se présentent à la frontière avant d'être conduits en bus jusqu'ici par les autorités rwandaises en coordination avec les organisations humanitaires. Jeff Doumtra est l'un des responsables du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il explique qu'il faut plusieurs jours pour installer les nouveaux arrivants.
Ils passent une nuit dans une baraque. Ils prennent leurs affaires et se dirigent vers l'autre côté du camp où ils passeront les prochains jours dans une baraque communautaire pendant que nous construisons leur baraque familiale. C'est le problème que nous avons. Les gens arrivent en grand nombre et il nous faut quelques jours pour les installer dans le camp sous une tente familiale.
It takes us a few days to get them situated in the camp. With their family tent.
85 nouveaux-nés ont été enregistrés dans le camp de Mahama en fin de semaine dernière et les mineurs constituent une grande proportion des 26 000 réfugiés, comme nous l'explique Jeff Doumtra du HCR.
Beaucoup d'adolescents, surtout les garçons, fuient le Burundi pour venir ici. Beaucoup d'entre eux viennent seuls ou en petits groupes, sans leur famille, sans leurs parents. Donc, nous avons beaucoup de mineurs non accompagnés, séparés de leurs familles.
Même si la tension a un peu baissé ces derniers temps au Burundi, à Mahama, personne pour l'instant ne parle de retourner au pays. Terence Zorabonayo président des réfugiés.
Aujourd'hui, nous observons les mouvements massifs venant de Bujumbura, d'autres localités, des provinces, dans les petites villes. Et cela nous montre qu'il n'y a pas de sécurité dans notre pays, il n'y a pas de paix dans notre pays, raison pour laquelle nous ne devrons pas quitter le pays d'asile.
Pour s'installer dans la durée, on annonce la construction de nombreux logements permanents pour les réfugiés. Et dans les semaines à venir, le site de Mahama va doubler de superficie. Bagassi Koura pour VOA Africa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Bénin, les déclarations de candidature commencent en vue des présidentielles de février 2016. Le tout dernier aspirant à la magistrature suprême, un fonctionnaire de la francophonie, avec comme priorité d'action la lutte contre la corruption. Notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba, nous en dit plus.
La présidentielle béninoise de 2016 reçoit déjà ses candidats. Après l'ancien garde des Sceaux de Bonigaï, Victor Tokpanou, qui a déclaré ses intentions de briguer la magistrature suprême au lendemain de 2011, voici un ancien fonctionnaire de la francophonie qui embouche la même trompette. Daniel Eda est son nom.
Ma candidature, votre candidature, notre candidature est une offre politique pour la paix et la réconciliation, sur fond de vérité et de justice. Notre candidature est l'alternative sûre pour mettre fin aux conflits personnels en cours et éviter à notre pays l'embrasement, le chaos programmé.
Son cheval de bataille sera la corruption qu'il compte vaincre par tous les moyens. Pour cela, il pense renforcer les institutions de contre-pouvoir et celles spécialement mises en place pour la lutte contre la corruption en leur donnant plus de moyens. Par exemple, libérer la justice de l'emprise des politiques et lui assurer ainsi plus de liberté pour agir et sanctionner. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Daniel Eda.
Réformer l'inspection générale de l'État dans ses missions de conseil, de soutien et surtout d'investigation des structures publiques pour une gestion transparente et efficiente. Allouer un budget annuel de 1 milliard de francs CFA pour soutenir les activités des organisations de la société civile qui luttent contre la corruption et l'enrichissement illicite. Car il est anormal que ce soit uniquement les partenaires ou principalement les partenaires qui soutiennent les acteurs de lutte contre la corruption dans notre pays. Allouer une aide annuelle de 3 milliards de francs CFA aux médias et journaux privés, dont un tiers pour soutenir le journalisme d'investigation contre la corruption, un tiers pour la formation et l'équipement, un tiers pour sécuriser tous les détenteurs de cartes de presse à travers l'octroi d'indemnités mensuelles. Soutenir la production artistique axée sur l'information et l'éducation des masses populaires contre la corruption et l'enrichissement illicite avec une dotation budgétaire annuelle de 1 milliard de francs CFA. Enfin, doter chaque député à l'Assemblée nationale d'une provision budgétaire de 50 millions de francs CFA par an pour l'habiliter à garder son autonomie et répondre aux sollicitations dans sa circonscription électorale à travers la réalisation de projets concrets sans verser dans les malversations liées au marché public.
Si on peut prêter l'intention à plus d'une vingtaine de personnalités béninoises d'être animées de la même volonté, Daniel Eda, lui, laisse tomber le masque et fixe ses compatriotes sur ses réelles intentions. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Et maintenant, l'actualité économique en Afrique subsaharienne avec Jean-Roger Bion.
Air France va bientôt reprendre ses vols à destination de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, annonce le responsable de la compagnie. Dans un communiqué, la compagnie française a indiqué que le premier vol devrait atterrir le 30 juin à Freetown et que chaque semaine, trois vols vont desservir la capitale sierra-léonaise et Paris. L'année dernière, Air France avait suspendu ses vols vers la Sierra Leone au plus fort de l'épidémie de la fièvre Ebola. La compagnie aérienne ASKI, basée au Togo, a atteint le seuil de 2 millions de passagers transportés sur ses lignes depuis le début de ses dessertes en 2010. La compagnie ASKI, créée par l'homme d'affaires et ancien ministre togolais Gervais Diondo, dessert actuellement 22 destinations à travers 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec 150 vols pour 10 000 passagers chaque semaine. La compagnie, d'après APA, a récemment signé avec Air Burkina un accord de partenariat en vue de renforcer leur réseau. L'objectif est d'offrir aux voyageurs plus d'opportunités, plus de destinations avec un réseau élargi, plus de facilités qualité de ponctualité, davantage de fréquence.
Et pour terminer, le chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar a été tué lors d'une opération aérienne menée par les États-Unis en Libye, annonce le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. Mais Washington dit encore évaluer les résultats de cette attaque samedi soir et ne confirme pas la mort de Belmokhtar. Les États-Unis avaient mis sa tête à prix pour une récompense de 5 millions de dollars. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.